avez lu le petit argument que j'ai envoyé ce week-end, j'ai donné un titre à ce conférence, ce que je voudrais faire aujourd'hui. J'ai proposé d'appeler ça Freud et Cantor, j'ai vu ça. Voilà, c'est parce que je n'ai pas fait cet exposé à Rouen l'année dernière, quand j'ai été invité à parler dans un colloque qui s'intitulait Lacan et la mathématique, et que j'ai préféré déjà se dire que de mon point de vue, il ne s'agissait pas de parler de Lacan et de mathématiques. Parce que je ne vois pas que les mathématiques soient mieux liées de Lacan comme certains ont l'air de vouloir le faire passer, enfin de considérer que Lacan aurait eu comme ça une espèce de lubie, enfin une relation mathématique qui aurait été originale. Dans cette façon de considérer la relation de la psychanalyse et de Lacan avec les mathématiques, j'y vois plutôt le fait d'une certaine forme de jalousie de la part de ceux qui essayent comme ça de réduire la relation que la psychanalyse et les mathématiques entretiennent. Alors j'ai quand même fait la roue le début de mon exposé pour dire, pour parler de la psychanalyse. Et commencer par rappeler que bien, il me semble qu'il y a des choses qui sont certaines. Et il y a même des documents, c'est des faits historiques, il y a des documents qui l'attestent. Il s'est passé quelque chose à Vienne, au début du siècle, et Freud a inventé la psychanalyse à Vienne et l'a pratiquée jusqu'à son départ pour Londres, puisqu'il a été chassé par les nazis et sauvé d'une éventuelle condamnation comme ça avait fait pour ses sœurs. Il a été sauvé avec sa femme et sa fille grâce à Marie Bonaparte et puis à l'ambassadeur des États-Unis. C'est comme ça qu'il a transité par Paris, Freud, et qu'il est allé à Londres. Donc Freud est mort, n'est pas mort en captivité. Et Freud a donc pu pratiquer sa psychanalyse, la psychanalyse qu'il a inventée pendant toute cette période qui couvre une quarantaine d'années à Vienne, avant qu'il ne parte pour Londres. Et puis, là, Freud, il a laissé 25 volumes des Amelberke. Donc, Freud est quelqu'un qui invente la psychanalyse. Il propose, il invite ce qu'on appelait des patients, parce qu'à l'époque, on n'employait pas le terme d'analysant. C'est Lacan qui va introduire. Donc, il propose à des sujets du langage de parler. Il abandonne l'hypnose parce qu'il se rend compte que tout le monde n'est pas de la même manière sujet à l'hypnose. Ça, c'est une question très intéressante. Et que, par contre, le transfert est quelque chose qui se produit automatiquement. Donc ça, c'est un point qui devient beaucoup plus abordable, je dirais, grâce à Lacan, qui dans le séminaire des fondements de la psychanalyse, le séminaire de 1964, Lacan explique à la fin que le transfert, ça vise, ça tend à l'hypnose. Il dit que le transfert a son effet de faire en sorte que l'objet A, l'objet qui joue une fonction dans ce transfert, il faut voir laquelle, il faut faire la théorie de ça, et que cet objet a tendance à venir se glisser sous l'idéal, sous l'idéalisation, et il y a un risque d'hypnose, parce que l'hypnose, c'est quand l'objet du désir se trouve justement identifié et vient en dessous de l'idéal. Donc un grand I comme ceci avec un petit A qui vient en dessous. Et Lacan dit que justement l'analyse, c'est maintenir la plus grande distance entre ce I et ce A. Et que le transfert a tendance à produire. Donc Freud, il a abandonné l'hypnose, semble-t-il, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont moins sujets à l'hypnose, qui refusent d'être suggérés. L'enjeu, c'est évidemment la suggestion. Et je vous renvoie à la direction de la cure de Lacan, là, au niveau de la suggestion, puisque Lacan dit qu'il y a certainement de la suggestion dans le transfert, c'est parce qu'il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas de suggestion, mais que la découverte de Freud équivaut à reconnaître qu'il y a de la suggestion dans le transfert, mais de ne pas s'en servir. Et donc certainement pas de s'en abuser, parce qu'il y a un risque d'abus, puisqu'il y a suggestion. Donc la découverte de Freud et la position génial de Freud, c'est justement de ne pas se cacher derrière son endroit en disant qu'il n'y aurait pas de suggestion de transfert, au contraire, mais que cette suggestion, c'est la responsabilité de l'analyste, enfin c'est sa fonction. Il est question qu'il ne laisse pas l'objet venir se mettre sous l'idéal pour produire une hypnose, et il n'est pas question qu'il utilise ce pouvoir que lui donne sur son patient, sur un autre qui vient lui parler, qu'il ne s'en serve pas, qu'il ne l'utilise pas, qu'il n'en abuse pas. Alors déjà, ça c'est une question. Alors derrière ça, il y a la question des sujets qui sont plus ou moins susceptibles d'être sujets que d'autres. Alors là, moi je vous renvoie à cette petite discussion très courte, et vous pouvez trouver dans le cornet AD, dans la préface du cornet AD de Max Jacob, puisque la cornet de Max Jacob, que Max Jacob est un saint, qui dit ça dans son écrit sur le temps logique. Max Jacob, il a fait une théorie du poème en prose. Et dans la théorie du poème en prose, c'est la préface au cornet AD, c'est 5 pages. C'est un petit bijou. Enfin, moi, je connais 2 textes qui paraissent de la même importance. Le petit texte, c'est quasiment une théorie esthétique. La préface au cornet AD de Max Jacob, dans laquelle il dit que tout ce qui existe est situé. Et que il s'agit que le style, c'est s'exprimer selon des moyens choisis. Et là, il critique Baudelaire en disant que Baudelaire se trompe absolument en parlant de l'œuvre d'art comme d'un piège. Et je pense que ça, c'est un objet de réflexion très simple. Il dit suite que c'est une chose intéressante de rapprocher ces deux notions du fait qu'il y a une certaine surprise passionnante qui peut vous attraper, que ce soit un poème en prose, une musique, un tableau, une peinture, une œuvre littéraire, la danse. Vous avez là, vous avez des sujets qui sont mobilisés par le style, par l'œuvre stylée. Vous avez des vrais bien choisis. Et c'est pas des pièges. Alors quelle est la différence? Ben justement, vous avez des sujets qui sont très facilement émotifs, mais qui sont incapables de raconter une histoire drôle. Vous voyez, la différence que vous pouvez faire entre le poème en prose et le piège, c'est que il faut vous rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent être très émotifs, comme les enfants peuvent l'être, quand on leur met un seau d'eau sur une porte, au-dessus d'une porte, et qu'ils reçoivent le seau d'eau au moment où ouvrent la porte. Ça n'a rien d'une œuvre d'art. Que la surprise et l'émotion est différente et que ça se voit aussi chez des gens qui sont très facilement émotifs du fait qu'on les surprenne, qu'on les comme on peut le faire aujourd'hui avec les enfants qui adorent ça, au point en se cachant dans un coude et en les surprenant, et puis le fait justement que les enfants, d'abord, ils adorent qu'on leur répète les mêmes histoires, sans doute, mais qu'il y a un chemin qui conduit justement au mot d'esprit, au conte, au fait de l'art du conteur, et qui fait que justement il y a des plaisirs préliminaires, il y a une façon de préparer son public, de l'emmener, et ensuite de produire la surprise à un moment précis dans une présentation. Et à mon avis, c'est aussi le cas dans ce qu'on pourrait appeler la présentation d'un cas clinique. Donc, les professeurs sont psychopathologiques. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'on peut faire une lecture avec Freud comme diapant de la littérature, et que la critique littéraire est intéressée par la psychanalyse. Il dit que c'est fatal, là, quand il dit ça comme ça, dans le texte qu'il a donné à Georgin, il dit que c'est parce que ça a la même courbure. L'art littéraire et la psyché, l'inconscient ont la même courbure. Il s'agit d'une logique souple qu'il apprend. Et on voit cette topologie qui pointe. Et que ça, on aura toujours tendance, dans la critique littéraire, à essayer d'utiliser la psychanalyse. Lacan semble contester, d'ailleurs. Il parle de Valérie à ce moment-là, c'est un texte qui est paru, c'était sur le tiroir que Lacan avait donné à Georgin pour un numéro de l'âge d'homme qui s'appelait Lacan. C'est un texte qui commence par C'est à la lecture de Freud, il n'y a pas de titre. Et c'est un texte qui finit sur les deux, trois dernières pages sur l'art littéraire, c'est assez étonnant, c'est là qu'il parle encore de Claudel et aussi de Sartre. En disant qu'il joue des mêmes ressorts que la tragédie antique, ce qui est quand même assez honorable, quand on sait que Lacan, des choses que Sartre a pu dire, comme par exemple que le désir était une passion inutile, ça fait râler Lacan, mais il rend hommage à Sartre, hein, comme étant, il a fait regarder les mouches, par exemple. Lacan, on parle aussi dans le séminaire, quand il fait le séminaire sur les psychoses, à propos du point de Capiton. Donc, il y a là quelques points qui méritent d'être précisés.
Excusez-moi, vous savez la ligne du texte de Georgin ?
Le numéro, il y a le livre qui s'appelle L'âge d'homme, c'est une sorte de revue, mais qui consacre un consacré à Lévi-Strauss, un autre à Lacan. Moi, je peux retrouver dans ma bibliothèque le volume. Et je ne crois pas que le texte soit d'être. C'est quelque chose qu'il a donné comme ça. Avec éventuellement un don qui n'a pas été repris dans les autres écrits, et qui, parce que justement, il a demandé, il n'en a pas parlé spécialement, mais comme il avait été interviewé sur une chronique par Georgin, qui a fait un joli numéro sur les Vichepose aussi, sur Lacan. Je pense que la famille était un peu vexée que Lacan sorte comme ça dans son tiroir un texte. C'est le seul texte où Lacan dit qu'il a construit la négation, une négation spéciale pour à propos de cette logique souple et de l'inconscient. Et ça, moi, j'ai jamais trouvé explicitement chez Lacan la construction de cette négation. Donc c'est un texte que Lacan n'a pas publié autrement, il a mis de côté. Mais il y a des très bonnes choses, surtout je vous conseille moi les trois dernières pages. Alors, ça on pourrait le mettre sur le site de l'association, parce que je l'ai. Comment il se présente? Moi je l'ai en photocopie, j'ai même fait une série de conférences avec ce texte au centre Rora de Nanterre, à propos justement de la littérature, de la critique littéraire. Il parle de Valérie, de l'œuvre d'art comme l'art d'un faussaire. Et c'est donc ça renvoie à Pollan, ça renvoie à tout le corpus de Pollan, que ce soit les incertitudes du langage et les différents thèmes que Pollan a étudiés, y compris Valérie et la question du faussaire. Ça se trouve chez Gallimard, par exemple. Donc là, il y a un corpus qui, à mon avis, est intéressant et qui intéresse justement la différence entre l'hypnose, la fascination et le transfert. Donc, la question que moi je voudrais soulever, c'est avec Freud et Cantor, justement, c'est jusqu'où va la théorie du transfert? C'est pour ça que je commence comme ça. Et donc, je constate simplement que si on me demande qu'est-ce que c'est que la psychanalyse, il est sûr qu'il y a une chose qui est. Nous avons dans le document, même si plus tard on se craque la tête, on se demande est-ce que ça a vraiment existé. Est-ce que Freud a vraiment existé? Ben, Freud, il y a quand même 25 volumes de Gesamt der Köh. On peut lire en allemand, il a écrit, on n'a pas d'enregistrement, on a quelques petits bouts d'enregistrement à peine de la voix de Freud, mais on a 25 volumes écrits. Et c'est un champion d'écriture, Freud. Lacan le signale dans ses conférences aux États-Unis quand il dit qu'avec Schreber, Freud est à l'aise parce que c'est pas un patient qu'il a rencontré. Travaille avec un texte. Quand il travaille avec un texte, c'est formidable. Freud, c'est un champion de l'écriture et de la lecture. Bon, mais il nous invite à parler. Et à parler dans le transfert. Bon. Donc, moi, je propose la notion qui, d'ailleurs, serait très importante aujourd'hui, de dire que la psychanalyse ne peut pas être comparée à une psychothérapie et ne doit pas se laisser justement gouverner par une réglementation qui viendrait de l'extérieur, que les textes de Freud et Lacan interdisent, et que c'est ça qui gêne les héritiers. C'est pour ça qu'hypocritement ils disent que ce sont d'autres qui attaquent la psychanalyse, mais eux ils l'ont favorisé, ils le souhaitent. C'est ce que j'ai dit à mon ami Cora Mieli qui nous raconte toute l'histoire de la psychanalyse. Psychothérapie, de psychanalyse à New York, par exemple, je lui dis, mais c'est la même chose. Partout, les analystes ne supportent pas que la psychanalyse ne soit pas plus réglementée, comme si Lacan avait été laxiste dans la direction, dans l'organisation de son école, comme si Freud n'avait pas voulu ce qu'il a fait. Il a hésité, il a fait des choses comme le comité, avec les anneaux, il a cherché des solutions, puis finalement, il a fait une église. Et Lacan fait pareil. Du champ Freudien. Elle est plus discrète parce qu'il l'a confiée à sa fille, alors que Anna Freud n'était que présidente d'honneur. Mais enfin, les filles jouent un rôle dans la stabilité éternelle que les deux grandes institutions de la psychanalyse, l'IPA à New York et la Fondation du champ Freudien à Paris, ça, Lacan l'explique dans l'étourdi. Il dit que les églises sont insubmersibles à partir du moment où elles reposent sur des rites qui concernent les orifices corporels. Il dit que les églises sont insubmersibles du fait de l'homosexualité grecque et arabe et de l'Eucharistie. Et puis là, il ajoute, en étourdie, de vous dire ceux qui ne s'intéressent pas à ces bouchons, les théologiens, dit-il, eh bien, eux, ils travailleront dans la structure, mais gare à la nausée, ce qui est assez amusant, parce que je ne sais pas si vous imaginez l'hostie comme donnant un bouchon et comme une rustine pour empêcher que le sujet ne recrache. Or, moi, justement, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est que je recrache. Je recrache des choses qui me sont rentrées par les oreilles, par les yeux, parce que j'ai lu, parce que j'ai entendu le séminaire, parce que j'ai aussi fait de la topologie avec souris, et parce que j'ai parlé difficilement, et que donc je propose de bien voir que la proposition de Freud se parle dans l'analyse. Et justement, il faut dire pourquoi est-ce qu'on demande, il y a une confusion énorme, pourquoi est-ce qu'on propose à l'analysant de parler? Quand certains sont bien emmerdés, c'est vrai que c'est emmerdant, un analysant qui dit rien. Il dit jamais rien, et on s'existe. En avoir rencontré. On est assez embêté parce que tant que l'analyse en parle, on se trouve les pouces. Bon, je crois que c'est plutôt le contraire qu'il faudrait faire. C'est de voir que justement Freud propose à des analysants de parler et qu'il ne doit y avoir aucune réglementation en dehors de la décision du patient qui est responsable de l'entreprise, qui ne s'est pas rendu compte qu'en venant voir un psychanalyste et un psychothérapeute, un psychanalyste, il a mis le pied dans l'engrenage d'une machine infernale qui s'appelle le langage, et qu'il est responsable de cette entreprise, qu'il a une responsabilité comme analysant, mais l'analyste aussi. L'analyste est un. Voilà. Moi, je tiens que la position de Lacan en matière de psychanalyse et de psychanalyste, c'est que quelqu'un, quel que soit sujet qui a des analysants, il est analyste. À charge pour l'analyse en question d'avoir fait le nécessaire que Freud exige de lui, c'est-à-dire d'avoir fait une analyse, d'être analysant et de rester, d'avoir franchi un certain nombre de coupures, d'étapes dont même Lacan a proposé qu'on témoigne d'une étape décisive qui serait celle du moment où on commence à devenir l'analyse de sa propre expérience, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que suffisamment, c'est pas celui qu'on a choisi comme analyste qui est l'analyste. Et que s'il y avait erreur sur la personne, d'ailleurs tant mieux, comme ça, justement, ça évite non seulement l'idéalisation, mais ça permet l'analyse future. Comme ça, si l'analysant devient lui-même l'analyste qu'il cherche à devenir l'analyste qu'il aurait voulu rencontrer dans son analyse, et que c'était pas le monsieur, la dame qui l'a rencontré, cette déception, qui fait dire à Lacan que l'analyste, je le déçois, il conjugue le verbe désêtre. Il parle du désêtre du psychanalyste. Et quand vous entendez le désêtre, vous entendez bien qu'il s'agit du désert. Et que quand vous entendez qu'il le conjugue en je le déçois, vous entendez bien qu'il en français qu'il y a quelque chose de l'ordre de la déception. Donc l'art de l'analyste, c'est de décevoir son patient, de lui faire entendre qu'il n'est pas l'analyste qu'il voudrait avoir. Je pense que c'est ce que Lacan faisait très bien et qu'on lui reproche parce que certains ont été déçus et restent déçus jusqu'à la fin de leur vie du fait d'avoir voulu avoir l'analyste qu'ils auraient voulu que Lacan soit. Bon. Lacan, il ne voulait pas être celui-là, il en était un autre et c'est sa fonction comme analyste pour que cette déception, justement, il faut faire attention qu'elle ne provoque pas un passage à l'acte. Parce que le passage à l'acte, c'est quand même provoqué par le fait que le grand autre, n'est-ce pas, déçoit. Quand le grand autre chute, là, il y a passage à l'acte. Hein. C'est l'occasion d'un certain nombre de suicides. À ce moment-là, le sujet passe par la tête, il essaie de traverser justement le cadre du fantasme, alors que dans le cadre de la fin de l'analyse, il s'agit plutôt de voir que c'est le fantasme, la traversée du fantasme, c'est le fantasme qui doit se traverser lui-même de la manière suivante, puisque le fantasme sur le cross-cap, vous voyez, c'est un 8 intérieur hein, sur un cross-cap. Vous voyez, vous avez une pastille sphérique qui vient se mettre comme ça, un bleu qui marche, qui est sur un feu qui marche bien. Vous avez comme ça une bleu qui se met en 8 intérieur. Ça, j'ai montré ça dans l'étoffe. Hein. avez, si vous réduisez cette partie qui s'appelle qui est une bande de Mobius sur Proscar, vous voyez, ici elle est cachée derrière, elle est à l'intérieur. Cette bande de Mobius dans le cross-cap, si vous la rétractez, vous voyez que vous pouvez réduire cette surface de Mobius à, une simple coupure en faisant migrer chaque point qui est là vers un point qui est ici. Mais l'un allant vers l'autre, il s'identifie ici et c'est ce que Lacan appelle la ligne sans point. Hein, puisque vous avez un point qui va dans le sens plus 1 et un point qui va dans le sens moins 1. Alors, moins 1 ici et plus 1 ici, ça fait 0. C'est ce que Lacan appelle la ligne sans point. Cette ligne sans point, cette ligne de points nuls, de points qui s'annulent deux par deux, justement, elle est problématique dans le cross-cap parce que le cross-cap, c'est une immersion du temps collectif. Voilà la traversée du fantasme, puisque si ce mouvement se continue, vous voyez dans une troisième figure que si vous continuez le mouvement, ben, il y a quelque chose qui s'est traversé et que vous retrouvez deux bords et une bande de Mobius. Hein, mais que dans ce cas-là, vous avez ici maintenant vous êtes passé à l'extension de la psychanalyse, vous êtes passé de l'extension plutôt à l'intention de la psychanalyse. Ici, vous avez le point moins 1 et le point plus 1 qui se sont inversés par rapport à ça. Et si vous mettez des vecteurs sur les points, vous pouvez piger pourquoi Lacan parle dans ce cas-là de ligne sans point. Voilà. Donc, ça, ici, c'est de retrouver la bande de Mobius, mais quelque chose est inversé dans le cross-cap. Pas grand-chose, hein, parce que regardez ici, vous verrez que ici, vous pouvez orienter ça comme ça. Et du coup, ceci est orientable comme ça, et que de nouveau, c'est orientable de la même manière. Bon. Donc, ce qui s'est inversé, c'est le passage de l'extension à l'intention. J'ai montré ça dans l'appendice de Etoff. Hein. Donc, voilà pour ce qui est de la question et de l'analyse de la fin de la cure. Il s'agit bien de réduire ici cette bande de la jouissance, de la réduire au désir, et la jouissance se reproduit une fois passé cet état. La jouissance, c'est ce territoire que Lacan appelle littoral, qui fait qu'une face du cross-cap se trouve de cette jouissance à s'opposer à l'autre face. Il y a une face qui s'appelle vérité et l'autre face qui s'appelle savoir. Et c'est comme ça que Lacan définit le symptôme, c'est dans 67, hein, dans son texte qui s'appelle La psychanalyse et la réalité. La vérité trouve de la jouissance à résister au savoir. Ça, c'est une définition du symptôme. Et vous voyez que la jouissance se réduit au désir au moment de la traversée du fantasme, c'est-à-dire au moment où le bord, le vide intérieur, se traverse lui-même. Alors, c'est parce que j'ai entendu quelqu'un un jour dire on ne traverse pas le fantasme comme on traverse la rue. Sans doute, c'est pas comme on traverse la rue, mais on traverse le fantasme, c'est le fantasme qui se traverse effectivement. Et ça fait quelque chose au sujet, ça fait quoi? Ça fait destitution subjective. Il y a quelque chose du sujet qui disparaît pendant un instant, et qu'est-ce qui reste? La pastille sphérique. Vous voyez, ici, il ne reste plus. C'est ce que Lacan ne trouvait pas tant dans le cross-cap. Il dit le cross-cap, c'est une bande de Mobius plus une pastille sphérique, mais finalement, c'est une pastille sphérique recollée d'une certaine manière avec elle-même, en annulant son bord, et on obtient le cross-cap, le plan projectif. Ça dépend comment on construit le plan projectif. Moi, je propose de le construire, le plan projectif, comme bande de Mobius, pas seulement en tordant un ruban et en collant les deux extrémités, hein, pour obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez ? Si j'ai un ruban comme ça et un autre comme ça, je vais plier ici mon ruban et je vais réunir les deux extrémités ici pour obtenir une bande de Mobius comme ça. Et, bon, ça, c'est comme ça qu'on présente souvent la bande de Mobius. Et vous voyez que là, vous avez la coupure qui est là. La coupure ou la collure qui sépare les deux faces, elle est ici. Et c'est un exercice que je fais dans les tops pour montrer que cette coupure, elle a la même fonction que celle-ci. Ça, j'appelle ça section transverse et sa coupure. Pourquoi ? Parce que je pense que le plus intéressant, c'est de présenter la bande de Möbius comme ceci, en voyant que la bande de Möbius, voyez-vous, c'est un ruban qu'on a reconnu le long de cette ligne-là. Comment ça s'obtient de cette manière-là, la bande de Möbius ? Ça s'obtient avec un ruban qui a deux bords, voyez, comme ceci. D'ailleurs, il y a un des bords qui est bleu, c'est ce bord-là, et ce bord-ci. Et ces choses-là, eh bien, elles forment un ruban qui a deux bords, un bleu et un noir. Voilà. Et c'est un ruban qui fait quatre, qui a quatre demi-torsions, qui est orientable et qui a quatre demi-torsions. Alors ici, il y a des petits points, voilà. Bon. Vous voyez que vous pouvez très bien noter que les couleurs ne se mélangent pas. Si vous prenez deux couleurs différentes, le rouge et le vert, vous verrez sur ce ruban que si ici vous mettez du rouge, hein, par exemple, vous voyez, ici vous avez un pli, donc vous voyez l'autre côté du rouge, ici c'est la couleur verte. Correspond bien au fait que ensuite ici vous avez de nouveau un pli, vous avez le rouge qui réapparaît. Donc les deux couleurs ne se mélangent pas ici. La bande est bien bilatère. Il y a deux côtés distincts mais quatre demi-torsions. Ici, il y a quatre fois une demi-torsion. C'est plus difficile à voir, mais enfin, tout ça étudié dans les toffes. Hein. Si on défait le 8, on a deux. Si on défait cette boucle, on a deux demi-torsions. Et comme il y a deux plis ici, il y en a deux autres, ça fait quatre demi-torsions. Si on recolle ça, à la manière de la réduction d'ailleurs de la traversée du frontal, on obtient une bande de Möbius qui est présentée différemment. C'est le même objet mais présenté de deux manières différentes. Et je montre un exercice qui permet de passer de cette situation à celle-ci et de celle-ci à celle-là. C'est la même chose mais c'est quand même différent. Vous voyez, et ça intéresse la théorie des nœuds que j'aimerais bien pouvoir reprendre suite de ce cours, du cours que je fais ici et à l'ER, c'est que je voudrais reprendre ça, c'est le rapport qui est entre les sections transverses entre les nœuds et les coupures qui caractérisent les nœuds, les surfaces d'ensemble. Bon, ça c'est un projet. Alors comment est-ce que je montre l'identité de ces deux choses? Eh bien je vous montre ça comme ça. Regardez, pour arriver à montrer que c'est identique, j'ajoute un trou ici, avec un bord rouge. Vous voyez ? Si je mets un trou ici, hein, je peux arriver à déformer ce trou de manière à ce que ce trou, ce soit celui-ci. C'est le bord de cette bande de Möbius-là. Vous voyez ? Ça, c'est un exercice qui me demande une dizaine de dessins et qui n'est pas trivial du tout. Hein, vous voyez, le bord rouge, il est là. Alors, où est passé le bord noir ? Et bien, le bord noir, justement, il ne rencontre pas la coupure. Donc, le bord, vous pouvez montrer que ceci, c'est équivalent à ça. Vous voyez, avec des couleurs, hein, avec le fait que cet objet est orientable, il y a du vert ici et du rouge là. Et là, vous allez aussi retrouver deux couleurs différentes. Que la coupure bleue, dans tous les cas, elle est bien celle qui sépare les deux côtés. Bon. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que la question de Lacan n'est pas de savoir où est-ce qu'on aboutit, qu'est-ce qui se passe dans l'analyse du point de vue de ce qu'on peut écrire, du contraire. Ce qu'on aimerait avec la passe, c'est en avoir des témoignages. Et des témoignages qui ne se prennent pas du col, qui ne se prétendent pas bon, être des prétextes pour être affiliés, alors que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans la passe. Puisque ça réclame la passe, ça réclame l'anonymat absolu. Et moi, c'est même pour ça. accepté, et c'était une manière pour emmerder certains autres de me faire à eux aussi. Moi, je ne mange pas de ce pain-là, je n'ai pas l'intention de négocier les notions freudiennes, les objets freudiens construits par Lacan avec de l'écriture.